Bonjour Christian Poyot.
Bonjour Raphaël Legendre.
On va parler de tout ça ensemble. Christian, cofondateur et CEO de Micropole Group Talent. Bonjour Ludovic de Sauté, directeur délégué de la rédaction de La Tribune. On attend Céline Antonin, économiste à l'OFCE, qui va arriver d'une minute à l'autre. Mais Ludovic, je voulais commencer avec vous simplement. Bon, pour vous faire part, les chiffres sont tout chauds, viennent de tomber de l'INSEE. Chiffres de la conso et de l'inflation qui sont plutôt pas mal.
Ouais,
de bonnes nouvelles,
mal.
Vous voulez qu'on les évoque pour commencer très rapidement.
Non, et c'est faux. Malheureusement, comme ces derniers mois, on a plutôt commenté des chiffres où ça s'emballait.
Ah oui.
Là, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation déjà marque le pas, puisque l'inflation ressort sur le mois de mai à 1,8% contre, on était 2,4% le mois précédent.
Oui.
Donc là, très clairement, on est corrélé sur la variation des prix de l'énergie. Hein, c'est ni plus ni moins. Suite à l'accord du 17 juin entre les États-Unis et l'Iran, les prix ont commencé, l'énergie ont commencé, oui, à baisser. Donc là, c'est vraiment la différence énergétique. L'autre bonne nouvelle, c'est que la conso résiste, et ça c'est aussi une bonne nouvelle, puisqu'elle elle ressort à plus 0,5%. Alors la curiosité, quand elle ressort plus 0,5%, c'est qu'elle ressort à la hausse, liée quand même à la hausse des prix d'énergie. C'est-à-dire que les gens ont plus payé d'énergie au
moment. Oui, c'est ça, c'est la conso d'énergie.
Ouais. Mais c'est pas la conso courante, on va dire.
Ouais, ouais. C'est ça, ouais. On n'est pas parti dépenser dans les restaurants de partout, évidemment, mais c'est quoi? C'est la clim? C'est la première
canicule,
les cinémas, en fait,
peut-être,
qui nous a...
Les glaces.
Ouais. Les îlots de fraîcheur qui ont peut-être fait du bien. Non, mais tout ça pour dire simplement, Christian, on a un peu, je veux dire, nous, ouais, les premiers, hein, ouais, dramatisé, ouais, quand même la situation, ouais, ces derniers mois, ouais, et puis on se rend compte que bah, finalement, ça tourne à un rythme assez moyen.
Je pense qu'on va pouvoir le dire un peu sur tous les thèmes que vous avez proposés, Raphaël. C'est-à-dire que, alors moi, par nature, je vois toujours le verre à moitié plein. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne...
C'est la nature, c'est une bonne nouvelle.
On ne se refait pas. Oui, je pense qu'on est, on a quand même toujours ce biais un peu catastrophiste, quoi, si je veux dire. Alors, la situation qu'on a vécue a été très dure pour beaucoup de gens. Enfin, il ne s'agit pas de nier la réalité des, oui, faits, mais encore une fois, si on essayait de revenir à des choses de bon sens, de voir les choses avec pragmatisme, lucidité et sans exagération. Et alors, je pense qu'ici, sur BFM Business, on analyse les choses. Mais enfin,
c'est tout ce qu'on aime,
sans vouloir jeter la pierre à vos camarades. Dans les médias, on a une surinflation, pour le coup, de nouvelles catastrophistes.
Bah oui.
La France étouffe, on a l'impression que tout le monde est mort. Bon, ok. Moi, je suis au quotidien dans les entreprises. La France a tourné, ça a été plus compliqué. Mais
bah, la France des entreprises, oui. Oui. C'était plus compliqué dans les services publics. Hein,
mais voilà. Donc, encore une fois, sachant raison garder, j'insiste bien pour qu'on ne traite pas de négationnisme, oui, de sujet climatique, évidemment. Mais regardons, on s'est adapté. Et puis, je pense peut-être le sujet suivant. Arrêtons tout de suite de se tourner vers l'État. Que fait l'État? L'État doit régler le sujet et compagnie. C'est vraiment un tropisme français qui est insupportable.
Oui, c'était l'appel de mon édito ce matin. Prenez-vous par la main, responsabilité individuelle, plutôt que
de
diluer dans le collectivisme et penser que Matignon a la réponse absolument, voilà, à tous nos problèmes. Allez, des solutions à nos problèmes, il y en a plein justement du côté des candidats à la présidentielle. Clim généralisée, congé climatique, plan fraîcheur, c'est un papier sympa des Échos ce matin. On peut commencer par la clim d'abord, qui a, ouais, été le grand sujet, Ludovic, de la semaine dernière. Est-ce qu'il faut généraliser la clim de partout?
Généraliser, peut-être pas, mais en tout cas...
c'est le plan du Rassemblement national, un grand plan climatisation. On ne sait pas trop encore. Alors, comment il le finance.
Il y a eu le papier que vous évoquez des Échos, et il y a quand même eu un peu un concours Lépine la semaine dernière, on va, ouais, pas se mentir, sur chacun y va de sa proposition. Ceci dit, sur la climatisation, juste pour remettre et prendre de la hauteur et pas se mettre juste dans un axe politique, il est anormal dans une économie française de se poser la question sur des lieux comme les EHPAD, les hôpitaux et par extension les écoles. Oui. Se dire qu'aujourd'hui, dans une économie moderne d'un pays quand même qui reste en pointe mondialement, on découvre le problème. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est comme si tout d'un coup, on s'apercevait que la France n'avait pas de chauffage l'hiver. Donc c'est, je vais faire le parallèle à l'envers. Donc,
Donc
il y a vraiment là, il y a un manque d'anticipation. Et c'est un manque d'anticipation. C'est-à-dire, je pense qu'il faut un peu dépolitiser l'approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, elle est plus tellement de savoir si, honnêtement, c'est climatisation contre écologie. C'est davantage immobilisme contre anticipation. C'est-à-dire,
oui,
que c'est ça,
oui,
la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut se mettre en marche. Il y a déjà des économies européennes, méditerranéennes, qui savent parfaitement gérer des périodes de chaleur sans se mettre à l'arrêt et sans avoir la moitié des trains qui ne circulent pas.
Le principal sujet qu'il faut éviter, c'est dire soit l'un, soit l'autre. Ça, évidemment, c'est une aberration.
C'est vrai qu'on a vu cette opposition un peu superficielle entre lutte contre le réchauffement climatique et adaptation, comme si l'un pesait sur l'autre et qu'on n'était pas capable de faire les deux.
Encore une fois, si on raisonne tout à fait simplement, bien sûr qu'il faut faire les deux. Voilà. Bon. Après, manque d'anticipation. Je me rappelle, ça doit faire 15 ans, il y avait eu des chutes de neige monstrueuses à Marseille. D'accord. Évidemment, tout le monde avait râlé, ça n'avait pas été anticipé, etc. Et le maire de l'époque, Gaudin, qui n'était pas parfait sur tout, avait répondu, écoutez, ça arrive une fois tous les 15 ans, donc oui, on ne va pas acheter un chasse-neige pour que ça serve une fois tous les 15 ans. Bon. Là, le parallèle est peut-être, est fait certainement pas le bon, parce qu'on se doute bien, malheureusement, que les crises climatiques vont augmenter. Mais ça fait pas non plus des années que ça augmente comme ça. Enfin, on se souvient de 2003, notamment, il y a eu
15 000 morts.
Voilà, bon. Oui, mais ça fait 20 ans, ça fait 23 ans. Oui. Bon. Là, malheureusement, ça va se produire beaucoup plus souvent. Donc oui, faut se dire, ça va venir, quoi, si j'ose dire. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pourquoi jeter l'anathème systématiquement à tel ou tel gouvernement ou quoi que ce soit ? J'ai encore une fois, oui, on est face à une situation qui évolue plus rapidement peut-être qu'on ne pouvait l'anticiper. Il va falloir continuer à lutter contre le réchauffement climatique. Redisons au passage que même si la France demain avait zéro émission carbone, c'est pas ça qui réglerait le problème. Ceux qui émettent, c'est la Chine, les États-Unis et compagnie. Donc oui, il faut continuer, mais les barrières climatiques s'arrêtent pas aux frontières, autant que je sache. Et même nos amis allemands utilisent le charbon de manière importante. Donc
on a été plutôt vertueux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour le coup, on a mis pas mal de choses en place et on est l'une des rares régions du monde à avoir baissé nos émissions carbone.
Exactement. Non, après, je rejoins exactement ce qui a été dit, c'est dire oui, bien sûr, les hôpitaux et les EHPAD, c'est quand même complètement hallucinant. Je crois qu'à Nantes, il y a un projet d'hôpital dans lequel on dit finalement la clim sert à rien. Alors là, pour le coup,
ça a été l'hôpital de Saint-Lô qui a été construit comme ça en disant qu'il n'y a pas de canicule effectivement en Normandie.
Alors là, pour le coup, la gare de Nantes, dont on a beaucoup parlé. Accessoirement aussi un chef d'entreprise, imaginez ce qui se passe à 3-5 ans et pour un politique à 10 ou 20 ans.
Et oui.
Donc ne pas mettre ça sur la table, là pour le coup c'est une erreur.
On a les moyens de financer le plan. Alors Gabriel Attal parle par exemple d'un droit à la climatisation. Est-ce qu'on a les moyens de mettre en place aujourd'hui?
La facture est colossale. Hein. Alors, pour l'instant, c'est des évaluations, mais on est de l'ordre, et d'ailleurs, ça pèse énormément sur les collectivités, surtout cette facture. On est de l'ordre de 19 à 20 milliards par an si on voulait s'y mettre sérieusement. Moi, ce qui m'inquiète dans la séquence actuelle, évidemment, on a croisé une canicule, on va peut-être en recroiser d'autres cet été, c'est que tout ça est un peu géré dans l'urgence. Allez, hop, on va acheter des centaines de milliers de climatiseurs chinois, et puis on va les mettre comme on peut dans des écoles, dans des crèches, et puis ils vont finir dans la poussière 11 mois sur 12. En fait, non, mais c'est clairement, on va sur cette tendance-là. Alors que là, c'est un effort structurel qu'il faut mener. C'est-à-dire que c'est un effort, d'abord, ça concerne le bâti. Le bâti, c'est pas quelque chose qu'il faut faire évoluer. Il faut bien comprendre que, à la limite, la France croise sa propre trajectoire. C'est-à-dire qu'on a un bâti ancien, je pense aux écoles, aux hôpitaux, qui ont même été conçus, imaginés à une période où on recherchait la lumière. On avait une hygiène qui était totalement différente. C'est-à-dire comment ces lieux étaient habitables dans un climat un peu tempéré, froid et autres. Il va falloir repenser tout ça. C'est un effort.
Donc c'est la rénovation des bâtiments. Il y a le fonds vert pour ça, près d'un milliard, 850 millions.
Après, alors là, Christian va me trouver défaitiste et tout ça, mais c'est sur toutes ces questions, toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui, que ça soit l'intelligence artificielle, que ça soit l'adaptation et tout ça, ça tombe à un moment où malheureusement la France, dans ses marges de manœuvre,
on a cramé la caisse.
Voilà, c'est-à-dire que là où il faudrait de la vision, du temps, de l'investissement et vraiment là, des logiques de plans décennaux avec des gens qui sont à la manœuvre. L'effort qu'on arrive à faire sur la défense, il faudrait le faire dans d'autres domaines en fait. Mais alors là, on croise, l'état de nos finances publiques. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui la capacité A. Maintenant, ce que je ressens, enfin Christian le confirmera, c'est que je pense que cette canicule a un mérite, entre guillemets, c'est malheureusement au plan sanitaire, elle n'a absolument aucun mérite, mais c'est même tout l'inverse.
Ouais.
C'est que je pense qu'elle a créé, comme les canicules s'enfermaient jusqu'à maintenant, plutôt dans les périodes estivales, c'est-à-dire du mois de juillet et d'août, sur lequel on a quand même des ralentissements économiques. Là, on a vécu deux canicules qui sont sur des périodes denses économiquement, c'est-à-dire à la fois le mois de mai et le mois de juin. Mmh. C'est plus la même donne. C'est-à-dire une canicule, un 15 août, la France est déjà un peu ralentie.
Oui.
Là, c'est des périodes.
Ça va faire mal, c'est ça que.
Non, c'est-à-dire que là, c'est des périodes denses. Et puis en plus, c'est des périodes de fin de saison dans les entreprises, ça turbine et tout ça. Et je pense que quand même, tant du côté du patronat que des syndicats, Il y a eu un électrochoc sur cette canicule qui a été, cette double canicule qui ont été extrêmement prématurées. Mmh. Se dire, en fait, ça va être compliqué de bosser là-dessus. Et je rappelle juste.
Il va falloir s'adapter.
Je rappelle juste dans quel cadre on est, parce que c'est pour une ville comme Paris, sur une échelle de 9 à 10 ans, c'est une dizaine, douzaine d'épisodes caniculaires de qu'on vient de vivre, étalés entre les mois d'avril, mai et octobre. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas juste les mois de juillet, août qui seront chauds.
C'est la moitié de l'année, là, vous nous dites. Hein. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, on pourrait avoir des canicules.
Et c'est des périodes clés dans les entreprises, c'est des périodes de fin de saison et des périodes de rentrée, sur lesquelles, si l'activité économique est déstructurée, les transports marchent pas, les salariés ne dorment pas, parce que c'est toutes ces questions-là et tout ça, bah, tout devient très compliqué.
Alors, je ne peux que vraiment être 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, dans les entreprises, on a quand même senti un ralentissement clair. Enfin, encore une fois, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, les gens qui arrivent en retard.
Et les corps fatigués.
Parce qu'il fallait gérer les enfants ou des alertes à droite, à gauche, etc. Donc oui, et effectivement, on est quand même en pleine période économique. Enfin, le mois de juin, c'est toujours traditionnellement un mois très actif. Je ne parle même pas des commerçants. Moi, à titre personnel, j'ai été faire des courses samedi. Les magasins, on était tranquilles. Il n'y avait personne. C'est vraiment un gros sujet de consommation. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que là aussi, le tissu économique... Qui est conscient de ça, mais qui... Enfin, une entreprise, elle s'adapte quand elle a des certitudes. Ouais, je veux dire, si on dit, OK, il y a une canicule tous les 3 ans et qui est plutôt, effectivement, au 15 août, bon, OK, il faudrait, mais enfin...
Non, mais là, on entre vraiment dans un nouveau monde. Hein.
Là, c'est clairement, on se dit, OK, ça va être régulier. Ça, enfin, je reprends ce qui a été dit.
D'où l'urgence
de la préparation.
Ça ne va pas être
uniquement le 15 août, donc il faut qu'on traite les choses. Maintenant, il y a déjà des points qui ont été faits. Même dans les villes, on voit bien que la verdification, je ne sais pas exactement comment on dit, a commencé, quoi, si j'ose dire. Du point de vue des bâtiments, c'est plus lourd aussi. Un bâtiment, quand on le construit, c'est pour 20, 30 ou 40 ans. Oui. Mais là, les normes ont commencé à évoluer pour qu'on tienne compte de ça, etc. Mais la vitesse d'adaptation est mécaniquement plus lente. Mais c'est vrai que là, il y a, je pense que toutes les boîtes vont se dire « Ah, OK, dans mes sujets, dans ma to-do list, le sujet canicule a des périodes importantes. »
Il va peut-être remonter.
Il y a réellement un changement de paradigme parce que le fait que cette canicule ait lieu en période d'activité. Mais d'ailleurs, on a vu même sur la vie sociale globalement. Hein. Ça a pris en otage le bac, le brevet et tout ça. Mmh. Alors, imaginons qu'un autre épisode de canicule ait lieu le 15 septembre, en pleine rentrée économique et autres. C'est-à-dire, si la France se remet à l'arrêt pendant une semaine, au-delà des dégâts sanitaires, hein, ce que je minimise pas, c'est-à-dire que c'est vraiment des problématiques. On peut pas être sur des logiques de yo-yo. C'est-à-dire, en gros, le thermomètre devient une sorte de détroit d'Hormuz, quoi.
Je suis persuadé que ça va être pris en compte. Vous voyez ce que je veux dire? On a la réalité des choses, on la touche du doigt, OK, on va le traiter. Alors, je dis pas que ça va être en 30 secondes, machin, mais on va le faire. Voilà, on va le traiter.
On a vu les entreprises hein, qui étaient quand même assez résilientes par rapport à la sphère publique. Moi, c'est le hiatus que j'ai vu entre les deux, là où l'école et l'hôpital étaient surchauffés. Bah, les entreprises ouvraient leurs portes pour accueillir les enfants des salariés, notamment. Je ne sais pas, Céline Antonin qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Céline, bonjour. Économiste à l'OFCE. Si on peut anticiper, ou en tout cas si vous avez regardé l'impact que peut avoir ces fortes vagues de chaleur en période d'activité. Là, on a plutôt des bonnes nouvelles, ce qu'on disait en début d'émission sur la consommation, parce qu'on a beaucoup consommé d'électricité. Le Premier ministre Sébastien Lecornu indiquait hier que la consommation d'énergie avait augmenté de 25% pendant la canicule. Ça, ce sont les climatiseurs. Quand on est à plein, évidemment, ça rentre dans le PIB. Donc, est-ce que la canicule, c'est plutôt bon ou mauvais pour la croissance ?
Alors, bon, pour l'instant, j'avoue que c'est encore difficile à dire, mais il est vrai que, en fait, il y a une différence entre une canicule, j'allais dire anticipée, bien gérée, puis une canicule qui va nous prendre au dépourvu. Effectivement, donc tout va dépendre de la préparation ou de l'impréparation, justement, des acteurs. Bon, là, en l'occurrence, on a quand même vu qu'il y avait une sorte, enfin, moi, je trouve, de changement de paradigme, parce qu'on s'est rendu compte que, quand même, enfin, on a entendu un certain nombre de propositions, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, de congés climatiques, etc. Donc, je pense que les impacts sur la croissance peuvent être très différents selon ce qu'on fait,
selon les solutions qu'on y apporte.
Voilà, selon les solutions qu'on peut apporter. Moi, par exemple, quand j'ai l'histoire du congé climatique, j'y crois très peu. Enfin, j'y crois même pas du tout.
Oui. C'est pour ça qu'on va pas trop en parler. Oui.
Voilà. Donc, même en Espagne, d'ailleurs, apparemment, même en Espagne, c'est assez décrié. Et puis, le seuil de déclenchement n'est pas du tout clair.
En Espagne, c'était pour d'autres raisons.
Tout à fait. Et puis, le seuil de déclenchement est tel que. Et puis, je pense qu'on peut pas du tout traiter de la même façon un cadre qui travaille dans un bureau climatisé et effectivement quelqu'un qui travaille sur un chantier. Mais je pense que là aussi, il y a il y a une forme, je sais qu'on aime bien les choses très centralisées, mais il y a quand même une forme aussi d'intelligence collective qui consiste à se dire qu'il faut vraiment faire du cas par cas et que les entreprises vont aussi s'adapter chacune à leur situation, quoi, et que l'État ne peut pas non plus tout gérer.
L'État ne peut pas tout faire. Vous êtes d'accord avec Christian Poyot et mon édito ce matin?
Moi, je voudrais quand même intervenir sur cette histoire de congé climatique.
Le coup de gueule de Christian Poyot.
on se pince, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement n'importe quoi.
S'il fait chaud, si on meurt de chaud, qu'il y ait des salariés, des ouvriers, des couvreurs qui sont sur les toits quand il fait 40 degrés sur les toits, ils doivent faire 55.
Là, c'est la santé au travail. De même que quand il fait très froid, on a le droit, même un droit de retrait, si on peut pas travailler.
Et une obligation des entreprises de veiller à la bonne santé de leurs salariés.
Moi, je connais le sujet pour différentes raisons. Mais ils démarrent à 6h du matin, puis effectivement, ils arrêtent à midi et compagnie. Mais je veux dire, cette réaction, cette haine de l'économie de marché, de dire n'importe quoi, de dire d'immenses conneries, excusez-moi du terme, c'est pas très poli, mais non, enfin, faut arrêter, quoi.
Mesures sociales, voilà. Il y a des idées.
Que des partis politiques osent sortir ce genre de choses, c'est dramatique, c'est affligeant, je sais plus quoi dire, mais franchement, c'est du grand n'importe quoi.
Voilà. Mais tout à l'heure, j'évoquais un concours Lépine, c'est-à-dire, pour moi, honnêtement, ce congé climatique est pire que la climatisation pour tous, hein. C'est-à-dire, c'est la mauvaise réponse à une vraie question.
Oui.
Très honnêtement. Moi, ce qui me marque dans ce débat-là, c'est comment, en une vingtaine d'années, on a changé. C'est-à-dire que quand il s'agissait de faire un effort sur les seniors, il y a une vingtaine d'années, on avait sacrifié le lundi de Pentecôte. Mmh. Maintenant, il fait chaud, on va moins travailler.
Voilà.
Donc, en fait, non, mais c'est comment on a glissé dans ce débat-là aujourd'hui.
Très bien.
Mais je pense que tous les sujets sont propices à les ramener à la réduction du temps de travail, etc. C'est qu'en fait, à travers un événement.
Une formation d'esprit, c'est certain.
C'est pavlovien, c'est pavlovien.
Et ce glissement-là, en l'espace de deux décennies, il est vraiment phénoménal. C'est-à-dire que, et je sais qu'il y a une délégation de patronats, de syndicats qui doit partir en Espagne, là, dans les semaines qui viennent pour aller comprendre.
Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, a annoncé qu'il allait voir emporter tout le monde pour découvrir le rythme.
Allons
le
faire déjà, ouvrons-nous. C'est-à-dire, c'est bien, mais c'est dommage qu'on le fasse en urgence face à une canicule, mais on va comprendre ce qu'est un pays qui est un peu plus chaud. C'est-à-dire que oui, on va probablement évoluer sur aussi nos horaires.
Oui.
Peut-être que la fraîche va devenir un horaire sur lequel on sera plus actif, les fins de journée, on sera plus actif.
Vous voyez les cadres arriver à 10h30, effectivement, ils arrivent
en temps. On va s'adapter.
C'est-à-dire qu'en fait, et alors c'est peut-être la limite, j'allais dire, du tout clim proposé par le RN, parce que le tout clim, c'est se dire on peut se déplacer d'îlot en îlot. Malheureusement, la vie est pas faite comme ça. C'est-à-dire qu'il faut adapter collectivement aussi nos modes de vie. Oui. C'est-à-dire même si on va dans un endroit climatisé à un autre, il y a des gens d'abord qui peuvent pas travailler en climatisation. Je pense aux gens du BTP, je pense à l'agriculture,
plein
de domaines, et la restauration et tout ça. Donc il va falloir qu'on repense collectivement sur des périodes de l'année. Nos modes de vie, en fait, c'est pas sûrement pas très agréable, mais le débat est très mal posé depuis la semaine dernière.
Oui, et puis c'est pour ça que ça doit sans doute passer par des réflexions au niveau des branches, au niveau des entreprises, et pas uniquement global, enfin, parce que effectivement vous traitez pas du tout de la même façon les différents cas. Donc
mais toutes les réponses ne sont pas à Matignon.
C'est ce que devraient faire les acteurs politiques, si je veux dire. C'est encore une fois, ça y est, j'ai le plan génial qui va tout régler, etc. C'est d'abord d'appeler à la responsabilité et à la prise de conscience de tout un chacun et de modifier ses habitudes et ses manières de travailler. Ça ne veut pas dire que l'État ne doit rien faire, ça, on est bien d'accord.
Ouais.
Mais encore une fois, les acteurs politiques eux-mêmes sont dans ce tropisme de dire dès qu'il y a une question, ça y est, je propose la solution sans apporter la réponse qui devrait être la bonne, c'est-à-dire encore une fois d'être sur le terrain.
L'État devrait se concentrer sur ce qui est de son périmètre, c'est-à-dire vraiment ce qui est régalien, et la santé, l'éducation, etc. Là, il peut vraiment agir. Mm. Et pour le reste, je pense qu'il faut vraiment que. Et d'ailleurs, en termes de financement, c'est pareil. Je pense qu'il faut que ça passe aussi au niveau de la branche, de l'entreprise, qui a un financement mixte, s'il faut songer à des manières justement de lutter contre le réchauffement. C'est vrai que c'est aussi une déresponsabilisation même des acteurs privés.
Mais on voit
ça veut dire
qu'eux-mêmes
ne font plus d'efforts. À la limite, il y aura un congé climatique et puis les entreprises ne font plus d'efforts non plus. Donc c'est...
Allez, il nous reste 5 minutes avant la coupure pub. Je voulais qu'on parle, Christian, avec vous, de ce sujet d'IA encore et ce méga plan d'investissement. On parle de 1000 milliards. Puce, data center, application, tout ça, c'est autour de Samsung et SK Hynix. Alors, deux acteurs déjà ultra dominants, dominent déjà plus de 70% du marché mondial des mémoires DRAM et HBM. Moi, j'ai un peu peur quand je vois la puissance financière que sont capables de mettre ces pays sur. Alors, c'est sur une dizaine d'années, hein, attention. Mais alors, l'Europe face à ça,
ouais, alors,
on se sent un peu tétanisé. Bon,
on est dans une époque où les chiffres se comptent en milliards.
Bah, c'est
en,
ça, c'est un peu la nouvelle unité de l'IA maintenant.
C'est l'auto, c'est bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y aura un très fort investissement? Oui, après, moi, j'avoue que je ne prête plus tellement attention aux chiffres en eux-mêmes parce que c'est de toute façon, on est dans l'exagération.
C'est de la com politique.
Oui, exactement. Bon. Deuxième remarque, tout ça rentre dans une chaîne de valeur de l'IA. Quand on dit IA, alors déjà, il y a l'IA générative, l'IA prédictive, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, mais l'IA, c'est plein de choses. Voilà. Bon. Sur l'IA générative en tant que telle, bah oui, alors il y a les terres rares, et puis après, enfin je fais court, il y a effectivement les puces Nvidia qui procèdent, et puis après, il y a des RAM qui stockent l'information. Bon. La Corée du Sud, là-dessus, est très forte, notamment avec Samsung. Oui. Tant mieux pour eux. Bon, donc effectivement, ils ont un bout de la chaîne de valeur sur lequel ils sont très bien positionnés et ils cherchent à l'accélérer. Pas de problème, enfin pas de problème, super. Bon, effectivement, est-ce que ça veut dire que la réaction de l'Europe de dire, ah ben il faut qu'on fasse la même chose? Non, plus de toute façon, à l'instant T, on n'a pas de gens qui produisent ça. Par contre, on peut être bon et on doit être bon sur d'autres morceaux de la chaîne de valeur.
Qu'est-ce qu'on a en Europe?
À
part devenir le pompiste avec nos centrales nucléaires, on va faire le plein des data centers, mais
alors,
à part ça.
On sait quand même faire des choses. Les data centers, on sait quand même faire des choses, d'accord? Et les data centers, ils ont quand même plutôt toujours intérêt à être proche des lieux de consommation.
Oui.
Sur les LLM en tant que tels, bon, alors on ressort à chaque fois Mistral, mais enfin, c'est vrai qu'au moins on a ça, par exemple, la Corée du Sud n'a aucun acteur sur ce sujet-là. Voilà. Et puis, on a les data. Moi, je me puise à réputer ça. On a les data parce que tout ça forme. Parce que tout ça, c'est de la mécanique. Puis au final, qu'est-ce qu'on fait? On prend des data et on analyse ces data pour en tirer des conclusions. D'accord? Donc vraiment, l'essence pure, c'est la data, voilà. Mmh. Et la data, là-dessus, l'Europe, et notamment la France, a plein de choses à faire. Donc, j'essaie de faire un parallèle. On utilise des voitures. Bah, OK, il y a de l'essence. Bah, il n'y aura pas d'essence en France ou pas. Alors, on va passer l'électricité. Mais il y a des pneus, c'est du caoutchouc, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, après, il y a des données dans ces voitures qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer le fonctionnement, la vie et proposer les services. Donc, très bien que la Corée du Sud fasse ça, ça semble logique. Est-ce qu'il faut pour autant s'exciter et se dire ça y est, c'est dramatique parce que l'Europe n'est pas positionnée spécifiquement sur le sujet des RAM?
Mais on voit que c'est le nouveau moteur mondial de la croissance. Hein,
oui, l'IA, mais l'IA au sens global, les acteurs par contre qui font les machines qui produisent ces puces, c'est l'acteur.
Alors il y a SML effectivement, SML, qui imprime les
puces. Leader mondial,
les stations essence et les imprimantes.
On a aussi nos sujets. Est-ce qu'il faut qu'on fasse mieux? Est-ce que globalement, j'allais dire, on est un peu trop en retard par rapport à ce qu'on devrait être? Oui, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il y a là tout est parfait de manière générale. Alors, oui. Mais ne nous excitons pas par rapport à ces montants et focussons-nous sur les points sur lesquels on a vraiment manière à jouer.
Céline Antonin.
Oui, alors par exemple, sur les histoires de puces, je sais qu'il y a des nouvelles générations de puces qui sont plus spécialisées dans l'inférence, par exemple, sur lesquelles on pourrait avoir une valeur ajoutée. Comme vous dites, il y a la question de la donnée. Et donc, d'où l'importance, je pense que ça pose, l'IA pose aussi la question de notre souveraineté. Et c'est vrai qu'avec la question de ces centres de données, on doit vraiment relocaliser la puissance sur le territoire. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que nos données, elles partent aussi à l'étranger. Donc, ça nous pose vraiment un problème de souveraineté. Donc, il y a ça. Il y a le fait que, par exemple, moi, j'ai un chiffre à vous donner sur les supercalculateurs. La puissance de calcul public, elle est à moitié aux États-Unis. Enfin, c'est 50% pour les États-Unis, c'est 24% pour l'Europe. Donc, on a quand même effectivement un retard qu'on peut, à mon avis, essayer de combler sur certaines choses, sur le financement des infrastructures, sur la R&D, sur l'IA. Et si je reprends, par exemple, les conclusions donc du rapport du comité IA qui avait été conduit par Aguillon et Bouvreau, on avait, donc ils préconisaient 5 milliards d'euros par an pendant 10 ans d'investissement, ce qui n'est pas un montant non plus énorme, c'est-à-dire que par rapport aux 1000 milliards là dont on parle, c'est pas grand-chose, mais déjà avec ça, il y avait quand même moyen de faire un certain nombre de choses, parce qu'on a aussi de très bons ingénieurs et
Moi, ce qui marque sur la Corée, et j'entends, et je rebondis sur ce que vous disiez, Raphaël, tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir peur de l'Europe? Je veux dire, la Corée aussi prend un risque, hein, parce que tout ça, on est dans des chiffres délirants. Ouais. Et,
alors, il y a beaucoup de capex et d'investissements, la vitesse d'investissement reste à mesurer.
Si on a une bulle IA qui claque un jour, l'économie coréenne. Mm. Donc, ce qui me marque plutôt, en profondeur, en tout cas dans la situation dans laquelle on est, sur la puissance, on va dire, de l'IA en tant qu'objet marketing financier aussi, on va pas se mentir, c'est que avant on avait les pétromonarchies, maintenant maintenant on a les puceaux monarchies qui sont en train d'apparaître.
Pas mal.
C'est-à-dire, en fait, des pays qui commencent à avoir une forme de rente qui s'installe autour de l'IA. Je rappelle l'histoire de Samsung, hein, formé 290 000 euros de primes par salarié. 290 000 euros de primes par salarié. Avec ça, on en paye des clims. Hein. Donc, c'est-à-dire que, en clair, aujourd'hui, il y a quand même une économie qui, on va pas se mentir, dans ses mensurations autour de l'IA, est un objet assez bizarroïde et qui nous interroge sur que va devenir financièrement tout ça, parce que c'est SpaceX est une bulle énorme en l'état quand même, et on verra quand tout va atterrir. Mais il y a un virage qui est pris de la part d'un pays qui sait qu'il rentre en compétition frontale avec les États-Unis, la Chine et Taïwan, et sur lequel, si on se fait décrocher dans l'état actuel, aujourd'hui, la Corée peut se faire déclasser très très rapidement. C'est-à-dire que c'est une bataille mondiale aujourd'hui. Alors, là où je suis entièrement d'accord avec Christian, c'est que cette bataille, on peut pas rentrer dedans aujourd'hui. Honnêtement, la bataille des semi-conducteurs...
Bah oui, mais comme c'est le moteur de la croissance mondiale, on se dit qu'on est un peu paumé.
Mais c'est une chaîne de valeur. Non, mais c'est une chaîne de valeur. C'est-à-dire que l'Europe n'a jamais été sur les chips. L'Europe n'a jamais été vraiment un acteur central.
On les imprime.
Voilà, on va pas chercher
d'être très spécialisé.
Oui, c'est ça.
Sur la niche. Sur la niche. En revanche, sur la data, sur les LLM, sur des Mistral et d'autres choses, et sur l'agentique aussi, on a des gros acteurs qui doivent prendre des virages.
Et le quantique qui va arriver.
Oui, et des acteurs...
Il faut jouer sur ces avantages comparatifs, ce que fait la Corée, puisque 18% de ses exports, c'est justement les semi-conducteurs. Voilà.
On va parler export, justement, avec la Chine et déséquilibre du marché de l'exportation. Avec la Chine, plus de 1 milliard d'euros ou de dollars, je ne sais plus, par jour. C'est le déficit commercial par rapport à la Chine, vis-à-vis de la Chine. Le ministre chinois était hier à Bruxelles en discussion avec notre commissaire Marco Stefkovic. On va en parler tout de suite après la coupure pub. Et puis, on reviendra aussi sur le Bitcoin et l'or qui s'effondrent. On va essayer de comprendre pourquoi.